Je reprends bien mon souffle parce que ça va être un gros marathon d'une heure, les amis. Salut à toi, camarade. Cette émission censurée avec le DAV derrière le micral à la jactance, comme d'habitude, et le Luca derrière les potards à la technique. On est en différé à l'antenne d'RCN, Radio Caraïbes Nancy, sur les ondes 90.7 FM. Et sur la toile, c'est le www.rcn-radio.org. Marathon ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, effectivement, en ce 1400e jour d'occupation. Hollande va le sommet des Fiennes et 131e jour d'état d'urgence. C'est reparti pour le marathon, hein. Comme il y a deux semaines exactement, il a fallu faire une petite pause quand même entre les deux, hein. Comme on se disait la semaine dernière, actualité oblige. Mais dans tous les cas, c'est reparti pour un petit tour. Il y a 30 piges en arrière, à savoir exactement en 1985. Suite donc, on ne peut plus direct de l'épisode précédent. On en était resté exactement là, à savoir, on s'était quitté avec les Thénardier. On va ranquiller directos dans le bousin que ça avec les camionneurs du suicide et ça démarre comme ça.
Oh là là, oh le son est bien poivre. Ah bah oui.
Il y a 30 ans et les amplis ils marchaient en pédalant gros, alors c'est normal hein. Le son est quand même relativement pérave. les icônes sont pas très très en place non plus, mais que voulez-vous, c'est déjà pile poil il y a 30 ans. Remarque presque, à quelques années près. Et puis voilà, il faut bien commencer quelque part. Hein. Là, on va se passer pendant une heure, quasiment les tout premiers enregistrements de groupes plus ou moins connus d'ailleurs, donc qui datent d'il y a 30 piges. Bienvenue et merci d'être à l'écoute d'Émissions Censurées, comme d'habitude. Hein, je suis poli, donc je vous souhaite la bienvenue et je vous dis salut au passage. Ceci étant dit, on va enquiller tout de suite, les amis, parce que le programme est chargé et c'est primordial qu'on arrive à se caser tout ça dans une heure. Et une heure, comme vous le savez, mes chers auditeurs, mes chères auditeuses, ça passe très trop vite. Voilà, donc alors, premier morceau qu'on vient de s'écouter, pour faire suite donc au Les Thénardier en se quittant dans l'épisode donc précédent. Là, on renquit directos avec Les Camionneurs du Suicide. On vient de s'écouter leur version à eux de La Java des Bons Enfants, issue du 45 tours qui porte le même nom, qui est donc sorti en 88, hein, pour ça que je vous disais à quelques années près, chez AOC Records et distribué par Bondage Records. Donc alors voilà le truc, alors tiens oui, La Java des Bons Enfants, on va juste faire un petit topo rapide dessus. C'est évidemment une reprise, à l'origine c'est une vieille chanson révolutionnaire qui daterait de 1912 et qui aurait été écrite par Raymond Calmin, dit Raymond La Science, à savoir le chimiste de la bande Abono, et qui en fait est un détournement, une blague de Guy Debord, et qui date de 1974, voilà. Et la musique est signée donc LKDS. LKDS, vous l'avez deviné, ça veut dire Les Camionneurs du Suicide. Donc le line-up, la formation à partir de 85, puisque le groupe existe à partir de cette année-là. Alors c'est c'est difficile à prononcer, c'est Jax, c'était pas si difficile que ça finalement. Jax à la guitare et au chant, Lucille saxophone comme vous l'avez entendu et au chant aussi, Bénix à la batterie et au percu, Stick Lou à la basse, et on termine par le saxophone qui est Jules R. Les Camionneurs du Suicide, LKDS, ils viennent au départ de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. La formation est en 83, excusez-moi du peu, jusqu'au stand-by en 94, et puis retour sur scène à partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Et oui, les Aminches, LKDS, ça tourne et ça existe encore. Donc, comme on a fait précédemment, évidemment j'ai trouvé des petits bouts d'interview pour qu'on puisse avoir les témoignages direct de l'époque. Je vais citer ma source, une fois par émission c'est pas trop peu, et c'est même carrément primordial aussi. Donc j'ai tiré toutes les sources des interviews qu'on va se partager ensemble dans l'excellent et dans la bible alternative, allons-y, soyons fous, qui s'appelle Nyark Nyark, donc sous-titré Fragments des scènes punk et rock alternatif en France 1976-1989, un bouquin signé d'Arnaud Rootboy et qui est sorti aux éditions Zone, ainsi que Folklore de la Zone Mondiale en novembre 2007, et que vous pouvez retrouver, commander facilement en l'occurrence sur le site de distribution alternative sur internet qui s'appelle La Destroy. Allez-y, je vous le recommande chaudement, aussi bien le site, parce qu'il y a beaucoup de disques qu'on peut trouver, qu'on trouve d'ailleurs nulle part ailleurs, et évidemment ce bouquin et d'autres livres. Ceci étant dit, les amis, donc nous allons rentrer dans une petite interview de Jax, qui date du 4 mars 2007 et qui a été sous l'égide d'Arnaud Rootboy. Voilà, je rends à Arnaud ce qui lui appartient. Alors, on y va, les gars. Et les filles, pardon. Au départ, en 83, j'étais tout seul. Ça faisait pas longtemps que j'avais débarqué à Paname. Les premières personnes que j'ai rencontrées étaient les bonnes. Une bande d'enragés, engagés, autonomes, qui prenaient ce dont ils avaient besoin sans payer, y compris les appartements, où on ne payait jamais ni loyer, ni eau, ni EDF. La démarche me plaisait bien. Jusqu'à présent, à Paris, je dormais dehors, en fait. J'étais déjà porté sur la poésie musicale, pardon. J'avais déjà écrit. J'avais déjà écrit des chansons dans la cave de mon HLM. J'avais un groupe qui s'appelait Détritus. J'avais fait une cassette autoproduite avec une demi-douzaine de protest songs sur des rythmes punk de base, dont une sur le flic du quartier, le shérif. Quatre accords super simples et vas-y, crache ton venin. À 14 ans, ce que j'avais compris du punk dans mon bled. Le nom camionneur du suicide, c'était une provocation. D'aucuns l'auront compris, mais il faut savoir que c'était par rapport à un attentat qui avait eu lieu contre les soldats de l'ONU au Liban. Il y avait eu 300-400 accidentés du travail chez les Bidas. Dès le départ, rien qu'avec le nom du groupe, j'ai décidé de me placer en antagonisme à l'occupation, à la colonisation, la post- et néocolonisation des autres territoires. Quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. Je venais d'un département où il y avait rien, la Lozère, d'un bled où j'étais le seul punk. J'étais interdit de tous les cafés du coin parce que j'avais une crête. En arrivant à Paris, j'ai rencontré plein de gens de tous les bords, des staliniens, des trotskistes, et je me suis forgé ma propre opinion. J'étais plus attiré par le côté libertaire de la pratique politique. Si on me demandait quel exemple historique j'aimerais adopter, s'il y avait des événements révolutionnaires profonds dans le pays, je dirais Espagne 36, Kronstadt 21. Je dirais l'Ukraine. Toutes les expériences collectivistes qui sont allées loin, où on a aboli l'argent, la propriété, l'État. Donc, en 85, je rencontre ces potes avec qui on fait le groupe. On était trois, basse, batterie, guitare. Lucille, une copine qui traînait autour du fanzine New Wave, nous a rejoint au saxo. C'est elle qui est sur l'enregistrement du 45 tours. Elle est partie après le disque. Ensuite, un copain, Vin, ou Vane, un mec super sympa, nous a rejoint. Il jouait tous les instruments avant, clarinette, saxo. À quatre, on répétait, on jouait dans beaucoup de trucs militants et dans beaucoup de concerts qu'on organisait nous-mêmes, dans nos lieux. L'histoire de LKDS est indissociable des luttes sociales de cette période, manif, occupation, mal logés, soutien aux prisonniers en lutte. Il y avait des périodes où le matin, à 5h30, on faisait des tours de garde avec scanner, cocktail molotov sur les toits pour se défendre. Là aussi, il y a des choses à raconter. On s'est fait attaqué par des commandos de vigile payés par les proprios. Quand ils venaient pas seuls, on a même eu le raid. Les commandos cagoulés et les mecs qui descendent la façade en rappel, le quartier bouclé, le 357 à la main. Et dans le quart de CRS, on chantait la Java des bons enfants. En 85, on fait ce 45 tours en autoproduction sur notre label Autonomie Ouvrière Combattante, AOC donc, avec le soutien financier de deux camarades et en hommage aux luttes des ouvriers. Une position de solidarité avec les ouvriers en lutte en général. Les seules personnes qui nous intéressent dans le milieu ouvrier sont ceux qui se battent, pas ceux qui cassent les grèves. C'est un disque qu'on va diffuser nous-mêmes. On en a donné beaucoup. Quand on le vendait, c'était au prix de revient. Il a coûté tant à la fabrication. Si tu veux le disque, tu participes, tu payes le prix qu'il a coûté. On jouait quasiment que dans les squats, quasiment que des concerts à thème. Et on n'a jamais fait de concert pour rien, de concert pour faire des concerts, quoi. Le style du groupe, c'est plutôt punk, rock, reggae, avec une touche de ska. Après, ça ira en s'élargissant. J'adopte même le concept de variété internationale. On peut prendre des influences partout. Mettre, par exemple, du djembé sur un morceau de rhythm and blues ou de la clarinette dans un morceau punk. À un moment donné, quand t'es jeune punk, tu peux avoir des tendances très sectaires. Et après, on en revient, on s'aperçoit que c'est pas que deux ou trois accords, forcément, ou un tempo précis. C'est la période où j'ai pris conscience que la musique ne pouvait être qu'un support à nos luttes face à un ennemi puissant et organisé. Pour moi, la musique livrée en public dans un monde où tout va mal ne peut pas rester neutre et servir uniquement à oublier ses soucis. Les chansons peuvent participer de la critique sociale comme n'importe quel bouquin ou émission de radio. C'est cette approche qui nous a permis de rester entiers sans jamais sombrer dans le vide abyssal du showbiz alterno. Car en fait, ce qui fut déclaré scène rock alternative n'était pour 80% des groupes qu'un tremplin pour s'intégrer dans les coulisses du showbiz. Ça a été une aubaine pour beaucoup d'opportunistes qui ont profité des squats que nous ouvrions et tenions. Incapables ou trop lâches pour occuper et autogérer eux-mêmes des lieux, ils ont quasiment tous fini dans les oubliettes de l'histoire. À Paris, à cette époque, la plupart des alternos sont des enfants de Bourges qui viennent s'encanailler. Ça, c'est une de nos grandes fiertés, parce qu'on est le seul groupe à avoir joué dans nos squats, toujours à prix libre. Beaucoup de groupes de la scène alternative se vantent d'avoir joué dans des squats, mais ils jouaient dans nos squats, jamais dans les leurs. Nous, on était à la fois musiciens et squatteurs, occupants, résistants, etc. Même les Bérus, ça fait partie de leur curriculum vitae, mais il n'est jamais précisé qu'ils jouaient dans les squats des autres. Aucun business. Je pense que c'est la démarche qui s'inscrit le plus justement dans l'évolution du punk 77. Rebelle, mais avec un cerveau qui agit. Je n'avais pas d'illusion sur l'originalité de mes compositions. Le rock, c'est une musique binaire. Je mets dans rock, évidemment, le reggae, le ska, le blues et le punk, bien sûr. Ce que le punk a amené de plus, c'est cette espèce de minimalisme où l'on peut faire une chanson avec un seul accord. On peut retrouver cette simplicité dans d'autres formes du rock, mais là, l'expression verbale est plus extrémiste ou radicale. J'étais très critique et très véhément par rapport à une façon de faire que je ne trouvais pas toujours nette. On n'était pas d'accord, surtout avec le reste de la scène. Nous, on était pour la gratuité totale. Tous nos concerts étaient à prix libre. Tu donnais ce que tu pouvais. Un jour, on a fait une tournée antifasciste à Belleville avec le fanzine Contre. On avait installé une sono sur un camion plateau et on avait invité plein d'autres groupes, les Thénardier, les Neurones en Folie, un concert sans autorisation. On partait du principe qu'on n'avait pas besoin d'autorisation. Aujourd'hui, je me contrefous des idées, des idéologies sectarisées. Le groupe était un instrument pour accompagner en musique de la poésie engagée, de la poésie rebelle, de la critique sociale. Je pense que de nos jours, on ne peut pas ne pas critiquer ce monde. On ne peut pas faire comme si tout allait bien ou baisser les bras. Je hais les résignés. On n'a rien enregistré par la suite et puis on s'est arrêté petit à petit. Voilà, fin d'interview. Nous allons donc enchaîner avec un autre, un non moins magnifique groupe de l'époque qui s'appelle Babylon Fighters et le morceau que je vous propose, les Amanches, s'appelle National Trouble.
And some madam confusion in a crisis. And some madam confusion in a crisis. Me say in conclusion, secret the national fuck. 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 German, 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 read them and be on the balance. German, 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 read them and be perturbation. German, 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 read them and be on the balance. German, 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 read them and prepare to be shown up.
Revolution secret and national.
Babylon Fighters, les amis, le morceau c'est National Trouble. C'est issu, alors c'est une version carrément inédite, issue de la compile mythique. Je crois qu'on peut dire ça comme ça, je l'ai découverte un petit peu sur le tard, cette compilation. Elle date pile poil de 85. Elle s'appelle Les héros du peuple sont immortels. Il me semble qu'on a déjà évoqué ça dans l'émission censurée Les Amanches. Cette compile-là, qui est une coproduction Gouniaf Mouvement et Kronstadt Tapes. Voilà, deux labels alternaux de l'époque qui ont laissé aussi une sacrée trace et qu'on peut dire carrément emblématique. Voilà. Alors en ce qui concerne ce morceau-là, donc la compile, ben elle est sortie en vinyle, elle a jamais été rééditée. C'est la toute première version du morceau qu'on vient d'écouter, National Trouble, qu'on retrouvera aussi. Alors, d'une part, sur le tout premier album des Babylon Fighters, tout premier album vinyle, bien sûr. Cet album, il s'appelle Radical System et il est sorti chez Édition Impossible, plus encore une coproduction Kronstadt Tapes, et il est sorti en 87. Et on retrouve aussi le morceau sur la compile historique 85-88 qui est sorti chez Crash Disc en 97. Ainsi que, enfin, pour terminer, sur la compile Nyark Nyark, ben inclus dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc sorti chez Folklore, la zone mondiale, en 2007. Voilà, puisque, oui, dans cet énorme bouquin, on retrouve aussi une compile avec une bonne vingtaine de morceaux des groupes qui sont donc interviewés, cités dans ce merveilleux bouquin. Alors, en ce qui concerne les Babylon Fighters, les amis, on va refaire un petit tour sur le line-up. Ce que j'aime pas ce mot-là, c'est mot franglais à la con. Le LINUP, donc, la formation en 85. Alors on retrouve au texte et au chant Bird, Fred Denis Dideuf à la guitare, Patrick Bill, c'est son vrai nom apparemment, hein, Bill, dit Bill à la basse, Olivier Denis dit Général O à la batterie, remplacé par Philippe Comte à partir de 87. On retrouve aussi Jean-Luc Aube dit Kobe au clavier, Jean-Pierre Guillot dit Jean-Pierre au saxophone, et à partir de 89, un nouveau membre arrive, c'est Laurent Malfoy, dit Lo, L-O avec un accent circonflexe, dit Lo Malfoy, qui le rejoint à la trompette. Donc, à l'origine, les Babylon Fighters, ils viennent de Saint-Étienne, formation vers 84, séparation en 92. Voilà, 84, parce qu'en fait, c'était des groupes jusque-là que je voulais vous présenter dans l'année précédente, quand on était il y a 30 piges en arrière, en 84. Alors, pour situer un petit peu, présenter un petit peu les Babylon Fighters, je suis allé voir sur le site de Crash Disc. Donc, Dixit, le site de Crash Disc, qui a compilé et réédité les vieux morceaux du groupe sur le disque dont je viens de vous parler, historique 85-88. Je cite, hein, précurseur du rabat-dub en France, Babylon Fighters fut l'une des références les plus importantes de la mouvance alternative. Du milieu des années 80 à son split en 92, ce groupe, impressionnant sur scène, a réussi à faire rimer reggae, sonorités urbaines et énergie punk. Son touffu, effet astucieux, basse fluide, rythmique, impeccable, et cuivre roots se mariait à la voix impérieuse de Bird, revisitant reggae, dub et ska. Fin de citation. Là, on va rentrer maintenant, on va retourner dans un petit extrait d'interview, une interview de Lo Malfoy, justement, donc trompettiste sur le tard des Babylon Fighters, et également cofondateur du label stéphanois Kronstadt Tapes, dont nous parlions encore tout à l'heure. Et l'interview est datée du 9 décembre 2006, et elle commence comme ça. Alors, Babylon Fighters a été créé vers 84, mais en fait, c'est plus vieux que ça. Ça a été monté par un trio, mais dès 86, il n'y avait plus un seul membre d'origine. Pourtant, la moitié du répertoire était constituée de morceaux qui viennent de cette époque-là. Le chanteur, Bird, a intégré le groupe rapidement, mais le bassiste et le clavier originaux sont partis bien avant le premier maxi, même avant la compile « Les héros du peuple sont immortels ». Le batteur, General O, avait quitté le groupe juste après le premier maxi. Donc, 2 ans après la création de Babylon Fighters, il n'y avait plus aucun membre fondateur. Tout s'est étoffé très vite, ça a démarré rapidement. Bon, c'était déjà du reggae urbain, j'ai intégré le groupe en tant que manager quasiment dès le départ. Je connaissais très bien les musiciens, il y avait une grande confiance, c'était autant mon groupe que le leur, on était vraiment un bloc. C'était un des premiers groupes de reggae français et comme il y avait quasiment que nous, eh ben on a très vite beaucoup tourné. On était complètement intégrés à la scène alternative de par mon passé avec Kronstadt Tapes. Et donc, on tournait sur les deux tableaux. On pouvait très bien être dans une MJC de banlieue parce qu'on faisait du reggae ou tourner avec les Ludwig le lendemain dans un endroit alternatif. Comme au TH, on a vite voulu se professionnaliser et imposer nos systèmes de son. C'est un truc qui nous a caractérisés et il a vraiment fallu se battre pour ça. On a été connus pour la qualité de notre son sur scène. On avait un mec au son, Jean-Pierre Spirly, qui était aussi primordial que n'importe quel autre membre du groupe. C'est lui qui a tout enregistré, sauf le dernier album. On avait aussi de vraies prestations scéniques et on a bénéficié de l'explosion de l'alternatif. En 85, avec la compile « Les héros du peuple sont immortels », on a existé. Le maxi 45 tours est sorti juste après et dès 86, on a vraiment tourné. Ça s'est plus arrêté par la suite, avec beaucoup de concerts à l'étranger, en Allemagne, beaucoup en Suisse, en Hollande, à Montréal. Ça chante plutôt en yaourt anglais, créole, français, des textes revendicatifs et radicaux. On s'est intégré à la scène radicale avec des textes comme « National Trouble », morceau contre le FN, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Et en plus, Bird chante bien, il a une belle voix, une bonne présence, il est charmant, il a du charisme. Et c'est après qu'il a dérapé. Mais au début, il restait vraiment à sa place, humble et tout. Il avait vraiment un beau timbre de voix, mais c'est surtout musicalement à l'époque qu'on a innové en faisant du reggae urbain et pas du reggae train-train. Le côté innovant vient de là, mais c'est pas du reggae traditionnel. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui connaissait On You Sound Records, label anglais historique de dub music, et nous, on était vraiment imprégnés de ça. Comme on était pratiquement le seul groupe qui faisait du reggae, on jouait souvent dans les quartiers, et on a eu la chance d'avoir un public assez large. On avait le public alternatif et le public reggae, même si notre spécificité musicale ne plaisait pas forcément aux puristes. Un jour, on a même fait la première partie de Burning Spear au Zénith à Paris. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Babylone, c'était pas du reggae roots, c'était urbain, avec du dub à la On New Sound, des réverbes partout. On a eu plus de succès que ce à quoi on pouvait s'attendre, on était plutôt contents, mais néanmoins, une partie du public comprenait pas ce qu'on faisait. Mais c'est pas du reggae, ça! Le rock alternatif, c'était un peu monolithique artistiquement. C'était quand même bien rock, punk rock. Donc, quand on a quand même bénéficié du fait qu'on était peu nombreux à faire ce style, on était franchement reggae, très urbain, on avait la culture du dub. Et quand je vois aujourd'hui l'explosion du dub français, je dis merci Babylone, alors qu'il n'y a pas un seul groupe qui s'en réfère à part Brain Damage. Et pourtant, c'est pourtant Babylone qui a vraiment préparé le terrain à cette musique-là. Voilà, hop là, fin de l'interview les amis, nous allons donc passer au morceau suivant. Elle était rapide celle-là, ça fait du bien aussi hein, pour vos oreilles comme pour mes cordes vocales. Bon, alors on va passer les amis à un groupe dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines. Justement un groupe dont je vous ai dit il y a quelques semaines, on va bientôt en parler, sauf que j'ai trouvé aucun son. aucun son de l'époque, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé quand même du son beaucoup plus proche de la période qui nous intéresse pendant cette heure-ci, donc 1985. Je le rappelle, si vous êtes parti pisser un coup, je veux dire. Donc voilà, Dirty District. Dirty District, à part en 90, il n'y a pas beaucoup de sons, ou alors il y a juste un petit truc qui est sorti l'année précédente, 89, qui est franchement introuvable. Mais je suis quand même vachement content, en l'espace de 3 semaines, d'avoir quand même réussi à vous trouver un bon petit son de Dirty District. Le morceau s'appelle UPP, ce qui veut dire Urban Planning Package. Ouh, le son de l'abeille. Bon, je vais aller pisser, moi. Excusez-moi. Hop là, c'est parti.
rester, hein. Vous allez voir, le morceau est vachement bien.
Eh ben ça, on voit bien le bousin. Dirty District, les amis. Donc, le morceau s'appelle UPP, UPP, Urban, je sais pas comment prononcer, je vais la prononcer à la Lorraine, hein, c'est très bien comme ça. Urban Planning Package, gros, voilà. C'est issu donc d'un album, leur premier album qui date de 90. L'album s'appelle Pouce au crime et Longueur de temps. Et il est sorti chez Oulala, le label, et distribué par Densteria. Voilà, donc c'est le tout premier album de Dirty District, sachant qu'avant, ils ont sorti un 45 tours, deux titres en 89, qui s'appelle Great Gangsters from Dirty District. Et d'ailleurs, à noter, bah parce que ça, je l'ai déjà noté, c'est marqué plusieurs fois, alors je vais peut-être me répéter, excusez-moi, hein, mais ça, je crois que je vais pas me répéter, sachant que les Dirty District aussi, en 88, donc avant qu'ils enregistrent leur premier 45 tours et évidemment leur premier album, ont participé aux prises de son, hein, à jouer en fait, jouer des instruments. Et je pense qu'ils en ont fait quand même une bonne partie sur, figurez-vous, je vous le donne en mille et mille, sur le premier album donc de La Mano Negra, l'album Pachanka sorti en 88. Et du coup, j'ai réécouté un petit peu quelques extraits de Pachanka. Et effectivement, on retrouve le clavier omniprésent. Qui a l'air d'être une marque de Dirty District, même si j'ai trouvé pas mal de traces de Dirty, j'ai quand même pas eu trop le temps de vraiment de fouiller. J'ai écouté, mais pas trop fouillé. Donc, allons-y, Dirty District. Le line-up, donc, à partir de 85, c'est Cachou à la guitare et au chant, Gilles à la deuxième gratte et à la compo, Géo, qu'on retrouve à la compo et au clavier aussi, Fred, dit Duffre, ex The Brigades, à la basse et également à la composition, et à la batterie. Enfin, on retrouve Doc. Voilà, les Dirty District, eh bien, ils viennent de Sèvres. dans les Hauts-de-Seine. Formation en 85, et voilà, ça y est, on est bien en 85. Et la séparation a lieu en 96. Alors, formé au départ sous le nom de Great Gangsters from the Dirty District, changé à partir de 90 en Dirty District. On les retrouve donc avec 4 albums. Hein. Donc le groupe s'arrête en 96 à la suite donc de 4 disques. Le premier, c'est donc le fameux 45 tours en 89. Ensuite, c'est leur premier album, 86 pouces au crime et longueur de temps, dont on vient de s'écouter un extrait qui est sorti, je vous le rappelle, chez Oulala. Oulala qui succédait tout juste à Bondage Records. Hein. Ensuite, en 96, on retrouve Live in the Dirty District, pardon, et enfin en 95, le dernier album, c'est Welcome to the Next Level, et ils ont fait voilà près de 1000 concerts. Une grande majorité de leurs chansons ont été chantées en anglais, grossement influencées par The Clash, Stiff Little Fingers, Lynton Quincy Johnson, Matt Professor, et évidemment par leurs influences reggae, ska et punk. Mais en 85, le groupe n'en était qu'à ses prémices, donc hein, avec l'année qui nous intéresse, et à peine formé, pas d'enregistrement pour cette période, de la répète et du concert. Le tout premier disque, donc en autoprod, ne sortant que 4 ans plus tard. Mais une chose est sûre, on aura de toute façon bien l'occasion de revenir sur le parcours de Dirty District d'ici quelques épisodes, les amis, chers chères, à suivre donc. Et en attendant la suite d'une prochaine année éventuelle, on va rester en 85 en ce qui nous concerne, avec un groupe qui est quand même incontournable. Ce groupe, j'ai nommé Pigalle. S'il ne s'est pas formé en 85, figurez-vous qu'il s'est formé 3 ans plus tôt, en 82, et qu'il était en grand temps de commencer à s'en passer un petit peu dans les esgourdes, vu le thème qui nous intéresse. Alors, ceci étant dit, on va se passer un morceau qui date pas du tout de cette époque. Pareil, comme pour avec les Dirty District, avant de tomber sur un premier enregistrement de Pigalle, va falloir être encore un petit peu patient. Là, je vous propose exactement la même année que Pouce au crime et longueur de temps, l'album des Dirty District. Donc la même année, c'est 90. 90, Pigalle sortait l'album Regards affligés sur la morne et pitoyable existence de Benjamin Tremblay, personnage falot mais ô combien attachant. Ça, tout ça, c'est le nom de l'album. C'est un peu long, oui, c'est vrai. Mais plus c'est long, plus c'est bon, il paraît. Alors, donc, le morceau que je vous propose du Pigalle, il s'appelle Chez Rascal et Renan. Et vous allez voir, c'est complètement dans la logique de ce qui va suivre après le morceau. Je vous laisse déguster Pigalle, Chez Rascal et Renan.
C'était chez Jimmy qu'on allait le samedi entre Bagnolet et rue des Pyrénées, avec dans le ventre une seule envie, boire un coup et s'éclater à en crever. Il y avait tous les copains qui venaient juste pour voir, et puis tous ceux qui jouaient dans les groupes. Pour l'univers c'était leur guitare, pendant que les autres ondulaient la croupe. Chez Rascal et Renan c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là, vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Derrière le bar, y'avait les trois frères qui servaient les petits canons de rouge. C'est toujours les mêmes qui vidaient les verres, bordel, faut que ça bouge. Les vampas s'attaquaient sur la scène, minuscules, et ça gueulait plus fort que la sono. Les seins des nanas gigotaient sous les pulls, et même quand ça fritait, c'était réglo. Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal, pourquoi vous tous qui veniez là, vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot ça pue, ce qu'a été n'est plus, ça pue. Quand les flics ont grogné, on a tous émigré rue de Buzinval, la patronne était cool. Le bar était grand, on pouvait bouger, la serveuse nous rendait ma boule. Ça se finissait très tard, en discussion d'ivrogne, ou bien les musicos tapaient le bœuf. On repartait parfois avec une petite queue bonne, ou avec un beau coquard tout neuf. Chirascal et Renan, c'était comme au bal. Pourquoi vous tous qui veniez là? Vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue. Ce qu'a été n'est plus, ça pue. Puis tout a fermé, les voisins rouspétaient, restaient plus que les groupes et la musique. Alors ils sont arrivés, ceux qui attendaient à grands coups de dollars et de fric. Derrière leur bureau, ils parlaient d'avenir, de rendement, de carrière, de top et de cible. Comment donc ont-ils fait pour vous convertir, vous qui étiez si incorruptibles? Chez Rascal et Renan, c'était comme au bal, pourquoi vous tous qui veniez là? Vous avez changé, vous avez renié tout ce qui nous faisait rêver. Je disais encore à Pierrot, ça pue. Ce qu'a été n'est plus, ça pue. Peut-être qu'en effet ça pouvait pas durer, mais un rêve on doit pas le casser. Je sais que vous direz que c'est démagogique, mais c'est juste un peu nostalgique. Peut-être qu'en effet ça pouvait pas durer, mais un rêve on doit pas le casser. Je sais que vous direz que c'est démagogique, mais c'est juste un peu nostalgique.
Ouais, juste un peu nostalgique, mais alors démagogique, absolument pas. Voilà, magnifique morceau de Pigalle, donc sur le deuxième album de Pigalle, qui s'appelle, comme je vous le disais tout à l'heure, juste pour leur plaisir, je vous en remets une couche, Regards affligés sur la monnaie tiens, on rembobine, hein, Lulu, voilà, alors, c'est reparti. Voilà. Regards affligés sur la morne et pitoyable existence de Benjamin Tremblay, personnage fallot mais ô combien attachant. Ça y est, j'y suis arrivé. Donc le morceau s'appelle Chirascal et Renan, deuxième album sorti en 90 chez Boucherie Productions et distribué par Piass France. Voilà. Alors, en ce qui concerne Pigalle, les amis, eh ben, on va faire rapide. On va faire vite. Alors, le line-up d'origine, hein, on va toujours faire le même système. Alors au départ, Pigalle, c'est juste un duo. Duo avec Daniel Aignon à la basse et au cœur. Et bien sûr, François excusez-moi, oh merde. François G. Lazaro, pourtant ce nom je le connais bien d'habitude, je le bouffe pas. Donc François G. Lazaro au texte et Zik, au chant bien sûr, alors accrochez-vous. Guitare, mandoline, saxo, programmation, séquenceur et batterie sur le premier album. Puis sur les suivants, accordéon, mélodéon, banjo, dobro, cavaquinho, pipa chinois, oud, style guitare, basse, violon, violoncelle, clavier, clarinette, flûte traversière, pardon, cornemuse et vielle à roue. Je respire un peu. Pigalle, c'est un groupe parisien, formation en 82 jusqu'en 98 et reformation en 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc, de Pigalle, très peu d'informations qui circulent sur le net, bah surtout sur les origines, ce qui est tout de même étonnant, sachant que c'est quand même une sacrée référence alternative. Le groupe existe donc dès le départ autour d'un duo, Daniel à la basse, pardon, et François G. Lazaro, dit le gros François vu son gabarit, qui joue déjà d'une multitude d'instruments. Une vingtaine au total au fur et à mesure de son parcours. François, donc, par ego pur jus, né dans le 14e, élevé entre Piaf et rock'n'roll, qui se met dès ses 13 ans à écrire musique et chansons. En dépit d'une expérience d'instituteur, le virus de la ZIC l'amène très vite à créer un premier groupe folk vers la fin des années 70, qui deviendra Pigalle en 82. Cette année-là, François a 26 ans. Très inspiré par la fusion entre les musiques folkloriques du monde entier et le punk rock, le ska et le rejeton bien bourrin, j'ai nommé la Oi Music, François va grandement contribuer au retour de l'accordéon en l'intégrant dans le rock, à l'instar d'un grand monsieur comme Gérard Blanchard, par exemple, quelques années auparavant, et même à l'instar aussi d'un groupe appelé, à l'époque qui nous concerne, en 85, donc Red Ted, qui deviendra, c'est le nom original en fait, d'un groupe qui deviendra les Ted Red par la suite. Concernant les textes, alors les influences sont claires, c'est de la chanson réaliste que Pigalle va fortement, énormément contribuer à renouveler, à tel point qu'on parlera de chansons néo-réalistes. Alors évidemment, impossible de jacter de Haji Lazaro sans évoquer un autre groupe incontournable dont il est à l'origine en tant qu'auteur, compositeur et multi-instrumentiste, à savoir, je vous le donne en mille, Émile, à savoir, eh ben, les Bolchoskines, justement formés en octobre 85, qui deviendront dès janvier de l'année suivante les Garçons Bouchers, dont François sera aussi le producteur en créant le label Boucherie Productions. Ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, et ben, ceci étant dit, les amis, je vais enchaîner sur sur le truc qui nous concerne. Alors, le truc qui nous concerne, c'est l'association Paris Bar Rock, dont justement François rend hommage dans le morceau qu'on vient de s'écouter, Chiraska et Renan. Alors, c'est aussi l'extrait d'une interview qui provient de Niark Niark. Le camarade interviewé s'appelle Christophe, donc c'est ni Rascal ni Renan. Christophe qui, donc, très certainement faisait partie de l'association et de l'organisation de tout ça. L'interview date du 15 janvier 2007. Alors, l'association Paris Bar Rock s'est créée en 83-84 suite à la rencontre de deux personnes, Rascal et Renan. Renan était dans le milieu artistique rock'n'roll parisien, dessinateur, et Rascal venait de Londres, où il avait vécu 2 ans et où il y avait cette scène garage psycho qui apparaissait. Ils se sont rencontrés à Paris et ont décidé de faire quelque chose avec les groupes parisiens et anglais de cette époque. Comme à Londres, les concerts se passaient dans les pubs, ils ont cherché des rades pour organiser des concerts. Et de toute façon, il n'y avait pas d'autre lieu. Ils écoutaient tous les deux toute la scène punk rock américaine de la fin des années 70, comme les Ramones, les Stooges, plus tous les groupes parisiens de cette époque, comme les Cherokees, les Soucoupes Violentes, les Pasadenas, qui étaient des genoux à l'époque. Il bossait 6 mois et il montait sur scène, façon de parler, parce que il y avait pas de scène. Les concerts étaient remplis au taquet et on voyait pas grand chose. Il y avait une sono-voix et basta. C'était carrément sauvage. Je sais même pas si les groupes étaient payés. Les concerts coûtaient 30 balles ou étaient gratos. Les patrons étaient pas trop généreux, quelques bières au plus. Et si on rajoute la location de la sono, on pouvait pas se permettre de faire venir des groupes de province. Pour les groupes de la scène londonienne que Rascal connaissait, ils essayaient d'organiser une petite tournée pour pouvoir faire une date sur Paris, mais c'était toujours à l'arrache. Au fur et à mesure, des gens sont investis dans l'assaut, des musiciens sont venus et ça a commencé à grossir. On a cherché des lieux plus grands et comme il n'y en avait pas, on a fait quelques concerts dans des squats, mais c'était difficile de prévoir à l'avance. Les squats ne tenaient pas très longtemps. Il y avait bien quelques squats avec les Berus ou Metal Urbain, mais c'était très typé musicalement. En plus, organiser des concerts de rock dans les bars, ça n'existait pas en France à cette époque, que ce soit à Paris ou ailleurs. Renan connaissait un bar chez Jimmy, le fameux Jimmy qu'on a entendu justement dans le morceau de Pigalle, les amis. Chez Jimmy, dans le 20e arrondissement, ils ont donc commencé là. Le mec était partant, mais au bout de quelques concerts, fermeture administrative à cause du bruit. Il a pris 6 mois. Ils ont démarché un autre bar, l'Auvergne. Mais il s'est passé la même chose. Même si les voisins étaient au courant, il suffisait d'une plainte pour qu'il y ait une fermeture administrative. Tout ça, c'était en 84-85, chez Jimmy. Il y a eu 36 concerts, à l'Auvergne, 16, ce qui représente à peu près 72 groupes. Niveau rythme, ça a pu être un concert par semaine, mais c'était variable. Il pouvait y avoir 2 mois sans rien, s'il n'y avait pas de lieu. C'était surtout un problème de lieu, et puis peut-être que certains groupes sont devenus un peu plus exigeants au niveau du cachet et des conditions de scène, parce que jouer avec une sono devant 150 personnes, alors qu'il n'y en a que 20 qui te voient, ça va bien une fois, deux fois, mais après... C'est pour ça qu'ils avaient investi cette salle dans le 15e, qui pouvait contenir 500 personnes, parce que les 500 personnes, elles étaient là à chaque fois. L'organisation, c'était à la bonne franquette. Ça se faisait sur le coin d'un rad. Des concerts pouvaient se monter en une semaine. C'était que du bouche à oreille, très peu de tracts, très peu d'affiches. De toute façon, début 83, il n'y avait pas 200 disquaires à Paris. Quasiment tout se faisait par téléphone. Un tel appelait un tel et tu te retrouvais vite avec du monde au concert. Des fois, on était 30 aux réunions. C'était un bordel monumental. C'était ingérable. Les autres... C'était des musiciens, des techniciens qui voyaient qu'il se passait quelque chose, des amis, des gens du public qui venaient nous filer des coups de main. Moi, je veux bien tenir la caisse, moi, je veux bien faire l'affichage, et moi, je connais des groupes. On faisait des écoutes de cassettes, de démos, on essayait de fonctionner de manière, de façon démocratique, à savoir une personne, un vote. Certains ont essayé de cadrer ça en faisant des comptes rendus de réunion, de les envoyer par courrier avant le prochain concert pour savoir ce qu'il y avait à faire, mais ça n'a pas tenu très longtemps, c'était pas possible. Au départ, il n'y avait pas grand monde. Il y avait le noyau dur. C'était une asso, donc il y avait un bureau. On se réunissait dans les troquets ou chez les potes. On n'avait pas de locaux et il n'y en aura jamais. Après l'Auvergne, il y a eu un cinéma. C'était le Berry, qui est maintenant une salle de spectacle à Belleville. C'était un vieux cinéma de quartier qui vivotait avec une programmation de fond de catalogue. Ils ont branché les proprios pour faire des projections de films de série Z. Avec le concert après. Il y a eu 16 concerts, 48 groupes. C'était un peu la déconnade parce que c'était une salle de spectacle où tu fumais, tu buvais, c'était quelque chose que tu ne verras plus jamais. Et plus tard, en 89, il y a eu Marius Magnin à Pernetti et en même temps le Gibus. Parce qu'à Marius Magnin, il fallait faire une programmation plusieurs mois à l'avance. C'était une salle municipale et on faisait ça en coproduction avec une autre asso. Il y avait donc aussi le Gibus, parce que ça a beau être des cons, c'était relativement facile de faire des concerts chez eux. Ils avaient tellement rien à l'époque qu'entre rien et 200 personnes, ils étaient d'accord pour 200 personnes. Le truc, c'est qu'on essayait de faire gaffe au prix et eux, ils vendaient la bière 20, 30 balles. Alors on était obligés de se murger dans les bars à côté et on finissait dans des états tels qui nous refusaient parfois l'entrée. C'était à la tête au Gibus. Parfois, tu rentrais pas parce qu'ils en avaient décidé ainsi. Tu te prenais un pain dans la gueule et puis bonsoir. De fait, on pouvait pas se permettre de faire cher dans un troquet. Ça a créé des gros débats d'ailleurs parce que tu veux faire venir des groupes, ils demandent un cachet. Comme tu fais ça dans des bars, tu peux pas les payer cher. C'était insoluble comme situation. Donc, en général, c'était 30 balles l'entrée. C'était honnête. On voulait pas construire la scène du tout. Il s'est trouvé que la scène s'est développée à cette époque-là et que nous, on était là à cette époque. C'est plutôt le hasard qui a fait que... Mais il y avait les squats qui se développaient, plein de petites assos en banlieue parisienne. Mais dans Paris intramuros, il y avait tellement peu de lieux que ça pouvait pas se développer. Il y avait une frustration de la part du public comme de la part des groupes de pas pouvoir jouer à Paris. Dans les années 80, avec le gouvernement socialiste, il y avait un monsieur rock au ministère de la Culture, Bruno Lyon, qui lui aussi a développé le rock dans les bars. Il y avait une volonté de la part du gouvernement de développer cette scène. On voyait qu'il y avait du changement. Mais par contre, avec la ville de Paris, il n'y avait rien. Donc, les bars rock, c'était aussi pour faire pression pour qu'il n'y ait pas que des grandes salles type Bercy ou le Zénith. Ou le Zénith, pardon, qui se créait à cette époque pour accueillir les grosses tournées américaines. Mais aussi des lieux pour accueillir les petits groupes locaux, bordel. Niveau public, c'était varié. Au début des années 80, il y avait des punks, des skins, des psychos, des gens plus branchés, garage 60s. Il y avait du loulou, quoi. Et puis, parfois, ces gens-là s'aimaient pas trop, donc c'était chaud. Quand t'allais dans les bars rock, tu te demandais ce qui allait se passer, et il se passait toujours quelque chose. Il y avait donc principalement des jeunes qui venaient, mais aussi des gens du milieu qui se faisaient chier depuis les années 70 et qui voyaient qu'il se passait enfin quelque chose. Paris, c'était tellement grand que tu pouvais rester dans un milieu sans connaître les autres. Je connaissais des gens qui n'écoutaient que du Fortiz. Tout le reste était de la merde pour eux. Ils avaient leur coiffeur Fortiz, leur fringue Fortiz, leur groupe Fortiz. Dans chaque petite niche, il y avait des bandes. C'était la même chose pour les rockabs, les punks, les skins. Nous, on essayait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de ghetto et que tout le monde vienne s'éclater sur de la musique et découvrir des choses. Nos programmations étaient toujours éclectiques. On mélangeait tous les genres. C'était dur parfois. Rock'n'roll, chaud, sale et humide, comme diraient certains. À l'époque, les skins, c'était pas du tout politisé. Donc, il n'y avait pas de problème de politique. C'était plutôt un problème de violence. On a fait jouer des groupes de Oi avec les bars rock. Je me souviens de mon premier concert Oi. C'était génial. Il y avait toute une tribu. Tout le monde dansait. Il n'y avait pas de problème. Et puis, tous ces groupes étaient intéressants. C'était du rock'n'roll. C'est plus tard qu'on a commencé à voir des petits nazillons et puis ensuite des Redskins. Il y avait des bastons avec les Red Warriors, les machins, les trucs, des bastons en puce de Clignancourt. Mais bon, ils venaient pas trop dans les baroques. Ça ne se faisait pas dans les concerts, c'était plutôt à l'extérieur. À la rigueur, ils s'attendaient sur le trottoir à la sortie du concert. Dans la scène française de l'époque, il y a eu un groupe en particulier. C'était les Vents Passe. Du fait que Rascal était leur manager, ils ont joué à outrance pour les baroques. Ils y ont fait leurs premières armes. Mais après, tout au long de l'histoire des baroques, il y a eu 2-3 groupes qui étaient soutenus et qui jouaient 4-5 fois dans l'année parce qu'on les aimait bien, on aimait bien les faire jouer et que c'était devenu des potes. Parabellum aussi a pas mal joué pour nous. De fil en aiguille, les musiciens se sont retrouvés, ils ont commencé à taper le bœuf et des groupes se sont créés au sein des bars rock, comme par exemple Los Carayos, créé à partir d'horizons et de groupes différents, comme Hot Pants, Les Vents Passe ou Parabellum. Ces mecs, se sont mis ensemble pour proposer leurs trucs et on les a fait jouer. Pour la petite histoire, François G. Lazaro faisait la sécu pour les bars rock à l'époque. Il a ensuite rejoint l'assaut. Et quand l'Auvergne a fermé en 86, certaines personnes dans l'assaut ont voulu faire des plus gros concerts, notamment avec l'usine, pour faire tourner des groupes plus importants issus, par exemple, de la scène hardcore américaine, qui étaient prêts à venir jouer pour presque rien, et d'autres ont voulu garder l'esprit d'origine. Il y a donc eu scission. C'est pour ça que Paris Bar Rock est devenu les Bar Rock. Et bien, puisque le camarade Christophe nous en a parlé un petit peu, on va se passer tout de suite, là, maintenant, un petit extrait d'un des tout premiers morceaux, si ce n'est le premier morceau enregistré, des Hot Pants. Yeah.
voit le bousin.
Il faut que ça se moigne le frounce un petit peu. Voilà. C'était donc les Hot Pants, les amis, avec un morceau carrément inédit dont j'ignorais totalement l'existence il n'y a pas plus tard qu'hier. Le morceau s'appelle So Many Nights, ainsi que le 45 tours dont il est issu. 45 tours, deux titres que j'ai découvert il n'y a pas plus tard qu'hier et qui date de 1985, les amis. Comme ça, on est vraiment quand même vachement bien foutu cette émission. Donc, alors, les Hot Pants sont à se manier, donc, hein. On va faire speed. Le line-up d'origine, c'est Manu Chao à la guitare et au chant, Pascal Borne à la deuxième gratte, Jean-Marc Despeignes à la basse et Santiago Casariego, dit Santi, à la batterie. Les Hot Pants sont de Paris, formation en 84, séparation en 87. Donc, nés sur les cendres de leur premier groupe, qui s'appelait Joint de Culasse, responsable d'un seul et unique album, Super Boom Rock'n'Roll, sorti en 82 chez Force Records, album dans lequel on ne retrouve d'ailleurs que des reprises de vieux standards rockabilly ricains de la deuxième moitié des années 50, avec entre autres Chuck Berry, Richard Berry, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Elvis Presley, Johnny Burnett, Fats Domino, Randy Newman et quelques autres. Ce qui leur permet donc aux Hot Pants de faire leurs premières armes, aussi bien scéniques que discographique. Manu Chao, son cousin Santi et leur pote bassiste Jean-Marc embrayent donc sur une nouvelle formation, les Hot Pants. Antoine Chao, le frangin de Manu, quatrième membre et trompettiste dans Joint de Culasse, va continuer l'aventure un temps avec son instrument de prédilection, la trompette, donc dans les Chihuahua. Le groupe sera donc complet en quatuor avec l'arrivée de Pascal à la deuxième gratte. Le nom du groupe, littéralement les pantalons chauds, est tiré d'une chanson de l'énormissime James Brown qu'on retrouve sur l'album Revolution of the Mind, sorti en 71. Mélangeant leurs premiers amours et influences rockabilliennes avec un punk rock plutôt peinard, sans grosse saturation, et déjà aussi quelques sonorités latines disséminées ça et là, les Hot Pants chantent en anglais et en espagnol. Ce qui préfigure déjà, mais de manière un peu plus minimaliste, ce que sera La Mano Negra quelques années plus tard. D'ailleurs, à ce propos, avant de sortir leur premier 45 tours chez Gougnaf, les Hot Pants sortent dès 84 une démo en cassette audio sur laquelle on retrouve un certain Malavida, toute première version aujourd'hui totalement introuvable d'un morceau qu'on ne présente évidemment plus et qu'on retrouvera sur Pachanka, le premier album de La Mano. Dans les brèves années de son existence, en plus de la cassette et du 45 tours, on retrouve les Hot Pants sur la compile mythique Les héros du peuple sont immortels, coproduite donc par Gougnaf et Kronstadt en 85, et également sur une des toutes premières compiles de Boucherie Prod, Hot Chicas, où les Hot Pants partagent le disque avec les Chihuahua et les Carayos, et enfin ils sortiront Loco Mosquito, leur seul et unique album la même année, sur le label All or Nothing, qui est d'ailleurs aussi le label qui produira la première salve carayenne, à savoir le live Ils ont osé, qui justement à ce propos commence exactement comme ça.
Los Carayos! Another chorus. Don't mind springtime, I don't mind a fool. Don't mind a sunshine, I don't mind a road. Don't mind a hero.
Bon bah j'avais encore une demi-heure d'émission hein. Là c'est pas putain. Bah heureusement que j'ai prévu une trilogie, les copains, pour le prochain épisode. Et les copines, pardon, je veux dire, pour le prochain épisode, j'ai pas du tout prévu de terminer parce qu'il y a encore évidemment les Carayos à survoler et les Happy Drivers, inévitables en cette année 85, puisqu'ils sont formés cette année-là. Donc, eh ben, les amis, je me demande si ça va pas être une quadrilogie plutôt qu'une trilogie, parce qu'à la vitesse où passe le temps, je sais pas si on va avoir trop le choix. Je cherche mon laïus. Voilà, c'était émission censurée. Alors attends, merci de l'avoir esgourdé. Suite et fin au prochain épisode. Alors suite et peut-être fin au prochain épisode. Vu que c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Bon, c'était Lucas à la technique. Merci mon Lucas, des grands moments de bonheur et de gloire. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures alternatives. Même jour, même heure, à savoir mercredi de 18 à 19h pour l'apéro. Bon, etc. Vous pouvez écouter et podcaster émission censurée sur www.rcm-radio.org. L'intégrale, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le générique de fin quand même. L'intégrale de la première jusqu'à la 257e dans quelques jours, c'est toujours sur le www.davidvincentetsesmutants.com. Aujourd'hui plus que jamais, mais bien moins que demain, vive la résistance, vivement la grève générale et la révolution mondiale, vive le rock et la radio libre, une seule solution, l'autogestion. Tiens, t'as dans notre parenthèse, mais on a encore le temps. Merci, bonsoir. Voilà, normalement, je dis merci, bonsoir quand le générique est fini. C'est le fait d'avoir viré un petit peu les rediffusions à réécouter. Bon, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, suite au prochain épisode. Le troisième et peut-être dernier épisode de Y'a 30 piges, à savoir 1985. Merci, bonsoir.